Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Il est 7h38 sur Radio Classique, nos spécialistes de l'économie. Pour revenir sur les grands sujets de ces dernières heures, il y a Hippolyte Dalmis, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Directeur de recherche au CNRS. Alexis Karklins est avec nous, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Associé dans le cabinet de conseil, 8 Advisory. Alors il y a deux chiffres qui vont être précisés aujourd'hui. Bon, on en connaît évidemment les grandes tendances. Le recul du PIB allemand au deuxième trimestre qui devrait approcher les 10% du jamais vu depuis au moins 50 ans. Le PIB des États-Unis au deuxième trimestre, la baisse va être historique, au moins de 35%. Je cite le président de la Fed qui hier soir maintenait ses taux inchangés tant que la vague ne sera pas passée. Monsieur Jerome Powell, cette pandémie est le plus grand choc pour l'économie américaine de mémoire humaine, du plus bas niveau de chômage en 50 ans au plus haut niveau depuis 90 ans, et cela en 2 mois. Comment on en sort? Tiens, Alexis Karklins, le franco-américain qui était avec nous en studio.
C'est évidemment une question très très lourde. Objectivement, ça va passer naturellement par l'entreprise, par les entreprises. On voit déjà les premières vagues de résultats des entreprises qui souffrent. Un certain nombre de secteurs souffrent, même si d'autres en profitent. Ça passera par évidemment une dynamique économique, un environnement, un cadre qui favorisera le retour de la confiance. Ça passera par une consommation qui retrouvera un chemin normal. Et on sait encore une fois que secteur par secteur, il va y avoir de grandes divergences. Et puis ça passera par la reprise de l'investissement. Et c'est là, on le voit, il y a encore une forme d'attentisme dans un très grand nombre d'activités parce que les entreprises ont besoin d'avoir évidemment plus de visibilité. Je crois qu'au fond, ce que l'on ressent très fortement actuellement en économie, c'est ce manque de visibilité. On est dans une période complètement uncharted, comme disent les Américains, donc vraiment un territoire qu'on ne connaît pas. Il faut défricher. On manque de repères, on manque de visibilité, et ça va peser encore quelques temps.
Est-ce que ça va passer par des mesures de soutien? Powell hier soir exhorte les politiques à prendre des nouvelles mesures de soutien aux entreprises, aux ménages, alors que la reprise évidemment ralentit. La reprise du coronavirus ralentit la reprise. Beaucoup d'inconnus aussi en France. L'épargne accumulée, est-ce qu'elle va servir à la consommation? Est-ce qu'il va falloir soutenir justement, inciter les consommateurs à venir dépenser? Hippolyte Dalby.
Aujourd'hui, oui, on s'en sort en fait en mettant beaucoup d'argent sur la table. Mmh. Comme vous le disiez, c'est peut-être de mémoire d'homme ou de femme, c'est la crise la plus importante que l'on connaît. Mais paradoxalement, on n'a jamais été aussi... l'argent n'a jamais été aussi abondant. On a autant généreux d'argent qu'on veut pour résoudre le problème. Et donc, pour l'instant, on sort du cash. Comment on s'en sort? On s'en sort aussi en faisant en sorte qu'il n'y ait pas une seconde vague. Il y a vraiment cette dimension sanitaire et apprentissage de gestion des crises qui est cruciale. Parce qu'aujourd'hui, on met du cash, mais si ça dure, on ne pourra plus tenir. Et à ce moment-là, à partir du moment où il n'y a plus la possibilité d'emprunter, il n'y a plus cette crédibilité, eh bien, on ne peut pas faire face à une seconde vague et on se retrouve finalement comme un pays, comme ces pays qui ne peuvent pas s'endetter et qui sont dans des situations très difficiles en Afrique ou quoi.
Manifestement, on a tiré les leçons du début de la crise sanitaire, sanitaire, on serait beaucoup mieux organisé au cas où, c'est ça?
Oui, c'est très important. Et puis, il faut absolument développer des moyens de prévention pour faire en sorte que les crises futures puissent être gérées de façon beaucoup plus adéquate. Bon, maintenant, vous me posiez la question de savoir s'il y a trop d'épargne ou comment est-ce que finalement on peut mobiliser l'épargne. Évidemment que si tout le monde se remet à consommer, l'économie va repartir. Maintenant, je pense qu'on est arrivé quand même dans une espèce d'économie dirigée où on explique aux gens en permanence ce qu'ils doivent faire. Alors c'était rester chez vous, sortez, puis maintenant ressortez, puis maintenant vous allez consommer. C'est quand même démentiel. Finalement, ce poids de l'État qui est vraiment très présent dans la vie de tout à chacun et paradoxalement avec une désaffection du politique.
En même temps, est-ce qu'il faut être totalement pessimiste? Je cite Jean-Pascal Tricoire, c'est le patron Schneider Electric dans Les Échos ce matin, qui hier, comme d'autres entreprises, annonçait donc ses résultats, bon, évidemment avec des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de bénéfices, bien sûr. C'est un exemple parmi d'autres. Que dit-il, Jean-Pascal Tricoire? Les projets d'investissement ont repris dans bon nombre d'entreprises. Ensuite, on n'a jamais assisté à une réaction aussi rapide, coordonnée et massive des États, ce que vous disiez l'un et l'autre, pour relancer l'économie. Avec un résultat assez confiant d'ailleurs pour un deuxième semestre plus positif. Avant-hier, c'est LVMH aussi qui se disait confiant, notamment grâce à la reprise en Asie. Vous pensez que le plus dur de la crise est passé? Tiens, Alexis Karkins, vous qui êtes vraiment en contact avec les entreprises chez Hite Advisory.
Nous l'avions évoqué sur cette antenne, Fabrice. Il y a plusieurs situations, il y a plusieurs types d'entreprises. Au fond, si on le résume, il y a vraiment quatre grandes catégories. Vous avez des entreprises qui ont subi des arrêts d'activité, mais qui, dès le déconfinement, ont connu des reprises très très rapides, et la perte sera limitée, les impacts seront limités, les investissements ont déjà repris. Vous avez une deuxième catégorie qui est sans doute la majorité des entreprises qui ont vu un retour, une reprise plus ou moins rapide. On n'est pas encore revenu sur des niveaux pré-crise. On s'attend à voir des niveaux d'activité entre fin 2020 et 2022 revenir sur un niveau pré-crise. Si tout se passe bien, si, comme on vient de l'évoquer, il n'y a pas de deuxième crise sanitaire majeure. Et puis, vous avez les secteurs qui, en revanche, eux, connaissent des transformations très, très importantes. On pense bien sûr au transport aérien.
On va parler de Boeing dans un instant.
Là, vous avez des secteurs qui connaissent le tourisme, qui vont connaître des transformations très profondes et négatives. À l'inverse, il y a quelques secteurs qui, eux, et ça, c'est la quatrième et dernière catégorie, des entreprises qui connaissent aujourd'hui des reprises très rapides, une véritable activité très soutenue, tout ce qui concerne par exemple l'habitat, le monde de la maison, le monde du chez-soi, le sport, le bien-être.
On en parlait avec Emmanuel Grenier, le patron de Cdiscount.
Une entreprise qui évidemment a profité de ces transformations de consommation. La crise sanitaire, la crise de Covid, finalement, a généré des transformations dans un certain nombre de secteurs.
Oui, Hippolyte Dalby, directeur de recherche au CNRS, c'est vrai, quelle lecture, par exemple, faire de la première salve de résultats d'entreprises un petit peu partout dans le monde? Je disais, fort recul des chiffres d'affaires, des bénéfices, mais on voit des secteurs qui résistent. Le luxe, tiens, PSA encore avant-hier. Enfin, c'était la surprise, PSA. Je prends cet exemple, mais il y en a d'autres, évidemment.
Bon, c'est la surprise, mais en même temps, vous voyez, si vous aviez prévu d'acheter une voiture en mars ou en avril, bon, vous ne l'avez pas fait à cause du confinement. Vous l'achetez en juillet. D'une certaine manière, on n'achète pas des voitures en permanence. Donc, dans ce cas, dès qu'on est sur du bien durable ou dès qu'on est sur de la consommation de biens que l'on peut décaler, on s'attend pas à ce que le secteur soit affecté. Alors, potentiellement, il peut être affecté parce que les chaînes de valeur internationales sont désorganisées. Donc, lui-même, il a un travail de restructuration à faire, ce qui peut engendrer d'ailleurs de l'activité. Mais qui est important pour lui, je le nie pas. Et l'autre élément, c'est l'effet demande. Hein. S'il y a une baisse des revenus au niveau mondial ou au niveau des pays, ils auront des carnets de commandes qui seront plus faibles.
Ce que l'on voit d'ailleurs, c'est très intéressant. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, entre guillemets, profitent de ces moments de crise pour vraiment travailler sur la marge, pour travailler sur la productivité, pour travailler sur l'efficience.
C'était le cas de Carlos Tavares à la tête
pour
de
PSA. Mais il y a le secteur de l'automobile, il y a beaucoup de secteurs où vous avez des entreprises qui profitent de ces moments pour faire très attention à la dépense, donc vraiment préserver les marges. Il y a évidemment une baisse de chiffre d'affaires plus ou moins longue qu'on vient de l'évoquer, mais il y a derrière un travail sur les marges. Et finalement, beaucoup d'entreprises se préparent à la reprise, au retour d'une demande plus soutenue, en tout cas elle est espérée, en se disant, entre-temps, on aura fait tout l'effort nécessaire, tous les efforts qui sont absolument indispensables pour retrouver la marge de manœuvre, de la productivité et derrière, potentiellement, de l'investissement.
Bon, vous savez quoi, on va se retrouver dans un instant. Il est 7h46 sur Radio Classique. On va retrouver Alexis Karkins, Hippolyte Dalby. On parlera quand même de Boeing, hein, quand même. Bon, dans un énorme trou noir. Et puis quand même, la déferlante anti-GAFA la nuit dernière au Congrès américain, en présence, à distance, donc, de leurs quatre patrons. Ils ont pris cher, mais ils sont bien défendus quand même. À tout de suite.
Peugeot présente Prime à la conversion. Dernière ligne droite.
Profitez des derniers instants de la prime à la conversion gouvernementale jusqu'à 5000 euros pour vous offrir une Peugeot neuve. Une occasion immanquable pour prendre la route au volant de la nouvelle Peugeot 208 élue voiture de l'année dès 109 euros par mois avec deux loyers offerts. Mais ne tardez pas, avec des conditions aussi exceptionnelles, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde.
LLD 49 mois pour une Peugeot 208 neuve en stock jusqu'au 24 août sous réserve acceptation crédit par. Détails sur Peugeot.fr.
Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Et on revient avec Hippolyte Dalby, directeur de recherche au CNRS. Alexis Karkins, associé chez Hite Advisory. Il est bientôt 7h48. Ce sont les spécialistes de l'économie de Radio Classique ce jeudi matin. Parmi les deux secteurs qui se sont distingués à leur façon dans la publication de résultats, l'aérien quand même. Témoignage hier avec les résultats de Boeing qui continuent de s'enfoncer, déjà lestés par les déboires du 737 MAX. Des pertes de 3 milliards depuis le début de l'année. Réduction de la production, des effectifs, arrêt du 747, Boeing, Airbus. Enfin, qui aurait dit ça, oui. Alexis Karkins.
Il y a trois facteurs qui jouent. Le premier, évidemment, c'est que la crise sanitaire a provoqué une baisse drastique des voyages en avion. Le transport aérien fait partie de ces secteurs qui souffrent le plus. vient se rajouter un premier facteur, enfin un facteur supplémentaire qui est lié au fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent il faut réduire les voyages d'entreprise. Mmh. On a des outils qui nous permettent de se connecter avec le reste du monde. Donc est-ce qu'on pourrait pas finalement source d'économie réduire le voyage d'affaires? Et puis il y a un phénomène plus structurel qui est qu'aujourd'hui une forme de stigmatisation du transport aérien, du voyage aérien pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales. Donc ces facteurs-là sont des facteurs qui vont rester, qui sont là pour durer. Et donc sans surprise, les grands acteurs du secteur, notamment en termes de production d'avions, souffrent beaucoup. Un seul chiffre. 2018, on était encore sur une très très belle année. Pour Airbus, pour Boeing, environ cette année-là, les deux constructeurs ont livré chacun 800 avions. Aujourd'hui, sur les 6 premiers mois de l'année, Airbus est descendu à 200, Boeing à 70. Vous avez plus de 630 avions, décompte mi-juillet, 630 avions aujourd'hui en attente de livraison, soit parce que vous avez des reports de commandes, soit parce que vous avez des annulations, mais aussi parce que vous l'avez évoqué pour Boeing, et en plus le facteur 737 MAX, puisque cet avion a été interdit de vol en mars 2019,
il y a deux ans,
et aujourd'hui qui attend un certain nombre de certificats. Donc voilà une entreprise qui souffre énormément.
Hippolyte, Dalbis.
Bon, c'est vrai que c'était pas évident de le prévoir. Hein. De toute façon, on ne prévoit pas l'avenir de façon générale, et chez Boeing non plus. D'ailleurs, il servait un très bon dividende. Le rendement de l'action pour 2019 est excellent, d'accord. Donc, il continuait. Je pense que même que le dernier coupon est sorti en février. Vous voyez, donc on était dans des difficultés d'anticipation qui sont tout à fait naturelles. Alors, comment est-ce que finalement Boeing maintenant réagit? Et là, peut-être la comparaison transatlantique est intéressante, c'est que, eh ben, on va licencier et on va licencier de façon massive. Et c'est vrai pour Boeing, mais c'est vrai pour toute l'économie américaine. Il faut bien voir comment ils se comportent. Hein. On est notamment chez les ménages peut-être les plus pauvres, on est presque à un ménage sur trois qui a connu une personne de son foyer qui a perdu son emploi. On est quand même sur des catastrophes sociales qu'on a du mal à imaginer ici en France, parce qu'on se plaint beaucoup, mais il faut voir ce qui se passe là-bas.
Terrible.
Alors, là où c'est évidemment très dur, mais... c'est aussi la capacité de l'économie américaine à répondre à un changement de monde. Parce que comme ce que vous disiez justement à Alexis juste à l'instant, ben si c'est parti pour durer, il faut peut-être mieux justement se restructurer et faire en sorte que toute cette main-d'œuvre aille dans des secteurs qui sont plus prometteurs. Voilà, alors c'est compliqué individuellement, c'est facile à dire, mais c'est compliqué individuellement, mais c'est une vraie différence avec ce qui va se passer en Europe, où on va continuer à subventionner l'emploi, et peut-être potentiellement des secteurs qui ne sont plus des secteurs d'avenir.
Alors, on reste aux États-Unis avec la nuit dernière, pour nous, hein, la fameuse audition à distance de Sundar Pichai, donc le patron de Google, de Tim Cook, Apple, Mark Zuckerberg, Facebook, et puis Jeff Bezos, Amazon, devant la Chambre des représentants, pour leurs pratiques soi-disant abusives, nuisant à la concurrence. Qu'est-ce qu'on a entendu? Les GAFA écrasent leurs concurrents à la démocratie. Ce sont les démocrates qui disaient ça. Les GAFA nous censurent. Ce sont les républicains qui enchaînaient. On a l'impression que des années de frustration comme ça vis-à-vis de ces boîtes sont ressorties d'un coup, Alexis Karklin.
C'est très vrai, c'est assez violent. Hein, pour regarder l'audition complète, c'est assez violent.
Tout y est passé. Hein, Google est devenu le portail d'accès à Internet et abuse de son pouvoir. Amazon est seulement intéressé dans l'exploitation de son monopole sur les ventes en ligne. Vous collectez des montagnes de données, vous avez trop d'influence. Voilà, bon, chacun.
Il y a vraiment deux mondes. L'impression que j'en ai retiré, c'est qu'il y a deux mondes qui ne se parlent pas facilement, avec des politiques qui ont besoin devant leurs électeurs, c'était retransmis, de montrer que le politique est toujours très présent, il est toujours là, avec une très grande sensibilité aux États-Unis sur les pratiques dominantes, sur les abus de position, sur les antitrust, avec notamment un des représentants qui pose une question et qui dit aux quatre dirigeants, mais est-ce que finalement on n'est pas dans une situation qui ressemble au début des années 1900, où il y avait déjà un certain nombre de trusts et de monopoles, et qui était un danger pour la démocratie américaine? Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas les nouveaux monopoles qui sont extrêmement dangereux pour cette démocratie? Leur réponse a été très claire. Les quatre ont dit finalement, sont venus avec un discours très patriotique. Hein. Nous sommes le fruit de l'Amérique, nous sommes l'innovation.
Nous créons des emplois aux États-Unis. Des investissements, nous participons à la croissance.
En agitant le chiffon chinois. Laissez-nous devenir puissants parce que de l'autre côté du Pacifique, il y a un pays qui est en train de monter et avec d'autres méthodes et d'autres valeurs, donc laissez-nous.
Ils ont raison quelque part.
Ils ont raison sur ce point-là. Oui. Ils ont raison bien sûr sur ce point-là. Ça n'empêche qu'ils sont bien en position de domination. Il faut quand même donner juste un chiffre. Je vais vous donner encore un chiffre, Fabrice, qui est absolument incroyable. La valeur boursière cumulée des quatre GAFA, d'accord, 4 800 milliards de dollars. 4800 milliards de dollars. Le PIB français, pour se faire une idée, 2800 milliards. Alors, on compare un flux et un stock. Hein, donc, on ne parle pas exactement la même chose. Mais c'est pour donner la taille, 4800 milliards. Aujourd'hui, Google et Facebook, c'est 60% de la publicité digitale aux États-Unis, juste avec ces deux acteurs-là. Donc, ils représentent une forme de domination. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, même s'ils apportent beaucoup de choses à l'économie américaine, c'est une réalité. Ce sont devenus des véritables géants qui ont finalement presque plus de puissance que le politique.
Sont-ils pour autant menacés de démantèlement ou pas? Pas
forcément. Ils sont potentiellement menacés. Moi, ce qui m'affole, c'est en effet, il y a le chiffon chinois, mais il n'y a pas de chiffon européen.
Ouais.
Et c'est quand même ça. C'est comme si on était vraiment sur la marge. Et je dirais que d'une certaine manière, on aime beaucoup les critiquer, mais on aimerait bien aussi avoir des champions du numérique et des champions des GAFA en Europe.
Ça fait combien d'années qu'on le dit, qu'on le prétend?
Mais d'accord. Mais dans le cadre du plan de relance, voyez, les budgets pour la recherche au niveau européen ont été réduits, d'accord, par rapport à ce qui était prévu. Et je dis, on construira pas l'économie de demain, l'économie numérique, l'économie du futur, je veux dire, sans la recherche. Alors qu'il y a du capital humain en Europe, et il y a les moyens de faire, et voilà, aujourd'hui c'est ça la réalité, on est sur la marge.
Et dans les grands gagnants de la crise, il y a ces quatre-là,
bien sûr, ils en profitent pleinement, et d'ailleurs la conclusion, David Sirinet, qui était finalement le président de cette commission judiciaire, la Chambre des représentants, il a conclu en disant: nous sommes bien aujourd'hui en situation de monopole, vous profitez de la situation, il va falloir faire très attention pour la démocratie.
C'était très bien, merci d'être venus tous les deux. Alexis Karkling, associé chez Eight Advisory, Hippolyte Dalbis, directeur de recherche au CNRS, nos spécialistes de l'écho, ce jeudi matin sur Radio Classique. Il est 7h54.